ou regarder la télé si notre chambre est rangée, si nous avons fait nos devoirs. Pour les plus grands, on nous dit qu'il n'y a rien sans rien dans la vie. Qu'il nous faut travailler dur. Révise bien tes cours et tu auras tes examens et ton diplôme. Et ça continue quand on est adulte. Si tu fais un super entretien d'embauche, bah, tu auras le poste. Et puis si tu travailles beaucoup, tu pourras avoir une promotion, etc. Tous ces exemples pour montrer à quel point notre culture, notre environnement, le monde qui nous entoure est très éloigné de la grâce. Et avec Jésus, c'est complètement différent. Et c'est même plutôt déroutant. On n'est pas habitué à la grâce, parce que ça change nos codes, nos habitudes, notre manière de penser, nos références. Peut-on avoir des choses de façon gratuite aujourd'hui ? Gratis, comme on dit, chez les jeunes ? La grâce, c'est un mot très très fort, avec beaucoup de sens. La grâce, c'est la générosité gratuite et imméritée, qui ne coûte rien pour celui qui la reçoit. Et je ne mérite pas de la recevoir. Je ne devrais pas y avoir droit. Pour nous, chrétiens, le mot « grâce » a une signification particulière. Peut-être que dans vos familles, avant de manger, quand vous êtes à table, vous rendez grâce pour la nourriture que vous avez devant vous. Vous remerciez Dieu de son action dans votre vie. Ça me fait penser aussi à ce jour aux États-Unis qu'on appelle « Thanksgiving », que Yvonne doit bien connaître. Vous l'avez peut-être vu mise en scène dans des films ou dans des séries. Thanksgiving est aussi appelé action de grâce dans certains pays. Et Thanksgiving, c'est un jour particulier où les Américains remercient Dieu par des prières et des réjouissances pour les bonheurs qu'ils ont pu recevoir pendant l'année. Alors même si un jour, ça paraît un peu peu pour être reconnaissant, c'est un début. Mais est-ce que vous connaissez l'origine de la fête de ce Thanksgiving ? Est-ce que quelqu'un la connaît ? Yvonne, je m'en doutais. Alors, je vais vous la raconter, les enfants. L'origine de cette fête, c'était en 1621, donc ça date hein, déjà. Et c'est une histoire avec des Indiens. Ce sont des colons britanniques, hein, donc des Anglais, qu'on a appelés pèlerins, et qui venaient de traverser tout le Pacifique pour arriver en Amérique du Nord. Et là, ils arrivèrent là-bas, la terre était difficile, le climat aussi. Les plantes, ils ne les connaissaient pas. Tout leur semblait hostile et ils n'arrivaient pas à survivre. Après un gros hiver, plus de la moitié des pèlerins étaient morts, moururent. Ils furent aidés après par deux Indiens d'une tribu qui leur offrirent de la nourriture. Puis après, ils leur apprirent à pêcher, à chasser et cultiver le maïs, à vivre. Et afin de fêter cette première récolte, donc à l'automne 1621, le gouverneur de l'époque décréta 3 jours d'action de grâce. Et à cette occasion, les colons, donc les pèlerins, invitèrent les Indiens qui les avaient aidés à venir partager un grand repas en guise de remerciement pour leur aide. Et durant ce festin, l'histoire raconte qu'ils amenèrent des dindes sauvages et des pigeons pour manger. Voilà l'origine de Thanksgiving. Dans cette histoire, on voit la signification de la grâce. Parce que des colons étaient venus envahir les terres des Indiens. Donc c'est des envahisseurs, ils viennent chez eux. En plus, ils vont mourir parce qu'ils n'arrivent pas à survivre. Et ce sont les Indiens qui se font attaquer qui vont les aider gratuitement. Alors que les envahisseurs, ben, ils ne les méritaient pas. La grâce, de la générosité gratuite et imméritée. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Quelque part, la grâce, c'est dur à accepter, dur à croire, dur à recevoir dans le monde où nous sommes conditionnés. Par exemple, essayez de parler de Dieu à un ami ou à un collègue. Il a du mal à comprendre. C'est normal d'un côté. Nous, quand on se balade dans la rue et qu'on voit un vendeur ambulant qui vient nous voir et qui nous dit « Oh, je veux rien vous vendre, quoi que ce soit, je veux vous offrir un voyage à Tahiti. » Vous le croyez ? Non, vous rigolez. Vous vous méfiez. On sait que rien n'est gratuit. Et pourtant, la grâce de Dieu est vraiment gratuite. C'est ça qui est merveilleux. Mais pourquoi avons-nous besoin de cette grâce ? Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Imaginez, si je sors dans la rue, je cours vers la première personne, je la prends par les épaules et je lui dis « Vous avez besoin d'être sauvés !» Elle va me regarder avec des yeux comme ça, elle me dit « Mais il est fou, lui !» On ne va pas voir les gens de cette manière. Mais maintenant, supposons que nous sommes au bord d'un étang. Là, moi, sur le bord, je vois un bateau retourné et une personne qui est en train de se noyer et qui se débat dans l'eau. Je me jette à l'eau, je nage vers lui, et cette personne qui se noie, je lui dis « Vous avez besoin d'être sauvé !» Ben, cette personne va dire oui. Oui, parce qu'elle se sent en danger. Nous ne voulons être sauvés que lorsque nous sommes en danger. En plus, il n'est pas agréable de penser que nous sommes en danger. Souvent, on se calme tout seul en disant « Oh, il n'y a pas de danger, oh Dieu, est-ce qu'il existe, oh, tout va bien, je fais ma vie. Oh, c'est pas à moi que ça va arriver quand même, ça n'arrive qu'aux autres. » Pourtant, en dehors de Christ et aux yeux de Dieu, nous courons un terrible danger. Il y a un danger, c'est le danger du péché. Le péché est dans notre nature. La maladie du péché a amené la mort et à la séparation d'avec Dieu. Comme nous le rappelle Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le mot « péché », c'est le mot que la Bible utilise encore et encore pour décrire notre condition sans Dieu et le danger que cela fait peser sur nous. Le péché est trompeur parce qu'il promet de bonnes choses, mais il produit le mal. Le péché promet le bonheur, mais il produit la tristesse. Le péché promet la liberté, mais il produit l'asservissement. Le péché promet la vie, mais il engendre la mort. Je vais vous donner une illustration du péché à travers une histoire que vous et également les enfants connaissez certainement déjà. Il y avait un homme bien, honoré et respecté par beaucoup. Toutefois, en un moment, un regard de convoitise, il prit la femme d'un autre. Ensuite, pour masquer son crime, il envoya cet homme à la guerre en première ligne pour être certain qu'il sera tué. Et il le fut. Pourtant, cet homme ne souffrait d'aucun remords, jusqu'au jour où Dieu lui envoya un de ses prophètes. Ce prophète vint et lui raconta une histoire. C'était l'histoire d'un homme riche qui avait des milliers de brebis broutant sur ses collines. Ce riche avait un voisin qui était très pauvre. Ce pauvre, sa seule possession était une petite brebis. Quand des visiteurs sont venus dans la maison du riche, ils prirent par la force l'unique brebis que le pauvre possédait. En entendant cette histoire d'injustice, David, le roi, car c'était lui, se leva furieux et dit « L'homme qui a fait cela doit mourir. » Le doigt accusateur du vieux prophète se dirigea droit sur le visage du roi et lui dit « Cet homme, c'est toi. » Dans le psaume 51, David déclare « Aie pitié de moi, purifie-moi de toute iniquité et lave-moi de mon péché. » Voilà comment est le péché. Il est souvent plus grave chez les autres, nous le critiquons de loin, tout en l'excusant dans nos vies. Jésus nous sauve des mensonges et de la domination du péché. Et à cause du péché, notre danger encouru, c'est le danger de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est être séparé de Dieu pour l'éternité. Ce danger guette tous ceux qui n'auront pas été sauvés par Jésus. La mort éternelle est destinée à tous ceux qui rejettent Jésus et son salut. Quand Dieu nous sauve, il nous donne une vie nouvelle. Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Vous pensez que ce verset s'adresse à qui ? À qui s'adresse la grâce ? Elle s'adresse à tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, vieux, riches, pauvres, petits, grands. Tout le monde, sans distinction. Quelle que soit votre position sociale, financière, culturelle, religieuse, quelle que soit la couleur de votre peau, de l'éducation que vous avez reçue, ou de l'opinion qu'on peut avoir de vous ou que vous avez de vous-même, vous pouvez vous prévaloir de la grâce de Dieu. Parce que personne n'est au-dessus de cette grâce pour ne pas avoir à l'accepter. Et personne n'est en dessous d'elle pour ne pas pouvoir l'accepter. Et vous en avez besoin. Comme cela est écrit dans la Bible, en Romains 3, verset 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont coupés, privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous connaissez Brandlow North ? Brandlow North, c'est un prédicateur évangéliste d'il y a beaucoup d'années, très longtemps. Et je vais vous lire ce qui lui est arrivé un soir. Cet homme, donc Brandlow North, avait vécu la première partie de sa vie comme un vrai fils prodigue, c'est-à-dire loin de Dieu, en faisant ce qu'il voulait. Mais après sa conversion, il devint un puissant témoin de Christ. Et un soir, alors qu'il entrait dans le lieu où il devait prêcher, un petit mot lui fit glisser dans la main. Le petit mot était rédigé en ces termes. « Brandlow, vous êtes un infect hypocrite. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à tel lieu, à telle date et votre rôle dans chacune de ces occasions ?» Une liste de détails suivait et la lettre se terminait par « Maintenant, misérable hypocrite. Vous savez que chaque mot de cette lettre est vrai. Oserez-vous, après l'avoir lu, monter sur l'estrade et prêcher ce que vous appelez l'Évangile ?» Le pauvre Brandlow était tout décontenancé. Il mit le petit mot dans sa poche et le moment étant venu où il devait parler, il lut les paroles bien connues de l'apôtre Paul en 1 Timothée 1, verset 15. « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et là, il fit une pause avant de continuer en appuyant sur les mots suivants. « Pour sauver des pécheurs dont je suis le plus grand. » Il poursuivit en disant, « Mes amis, en entrant ici ce soir, une lettre m'a été glissée dans la main. Je ne sais pas qui l'a écrite, mais il est évident que celui qui l'a écrite connaît très bien ce qu'a été ma vie passée. Cette lettre m'accuse d'avoir été mêlée à des scènes d'émeutes, d'excès et d'orgies. J'ai trois choses à dire concernant cette lettre. La première, c'est que tout est vrai. Plaise à Dieu que je puisse défaire ce que j'ai fait, mais cela est au-dessus du pouvoir des hommes. Dieu sait que c'est vrai, et je confesse avec douleur et honte que tout cela est bien vrai. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que tout est pardonné. Je sais que Dieu, pour Dieu, c'est pardonné. Je sais aussi que moi, pour Brandlow, que c'est pardonné. Et la troisième chose que j'ai à dire, c'est que si Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ, peut pardonner les péchés d'un pécheur comme moi, comme Brandlow North, il n'y a pas dans tout le monde un trop grand pécheur à qui Dieu ne puisse pas pardonner tous ses péchés. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Oui, la grâce dont il est question n'a pas de limite. Cette grâce s'adresse à tous ceux qui ont péché Et si vous croyez que vous avez péché, cette grâce est aussi pour vous. Cette grâce est l'expression de l'immense amour que Dieu a pour nous. Maintenant, voyons par quels moyens recevons-nous la grâce de Dieu. Dans le verset, on peut lire que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Avoir la foi qui sauve, ce n'est pas admettre l'existence de Dieu et en rester là. C'est ce qu'on a vu dans le sketch avec Agnel. On peut parfaitement connaître la Bible, par cœur, de A à Z, aller à Jérusalem, suivre Billy Graham, la comprendre, mais ne pas la vivre. Et c'est l'essentiel, la vivre. D'ailleurs, on lit dans Jacques, 2, verset 19, que même les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ils tremblent. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas, comme nous le rappelle Hébreux 11, verset 1. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Cette définition de la foi ne nous est pas donnée dans un dictionnaire, mais bien par la Bible, qui est la véritable parole de Dieu. Il s'agit donc de la définition de Dieu. Pour vous donner un exemple, je suis sûr que tous les papas ont déjà fait ça avec leur enfant ou avec un enfant. Vous mettez l'enfant sur un petit muret, vous lui mettez les mains dans le dos et vous lui dites « saute ». Alors en fonction du caractère des enfants, c'est plus ou moins hésitant. Mais la plupart du temps, les enfants sautent. Ils sautent parce qu'ils savent que leur père va les rattraper. Pour eux, c'est une certitude que leur papa va bouger ses mains pour les rattraper, même si les mains ne sont pas à la vue de l'enfant. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Et notre foi a besoin d'être nourrie quotidiennement, par la prière, par la lecture de la parole de la Bible, en demandant à Dieu de nous aider à l'appliquer dans nos vies. Une foi qui n'est pas entretenue régulièrement dégénère vite. On peut lire un peu plus loin dans le verset, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il nous est demandé de croire pour être sauvés, d'avoir la foi, mais même cette foi dont on parle fait partie du don de Dieu. C'est elle qui sauve, et nous ne pouvons pas l'exercer par notre propre force. Elle nous est donnée, comme nous le confirme 2 Pierre, verset 1, chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, adresse cette lettre à ceux qui ont reçu, comme nous, le don précieux de la foi de la part de Jésus-Christ. Notre Dieu est notre sauveur, car il est juste. Toute idée que l'homme puisse gagner ou mériter le salut est exclu. Est exclu par ces mots, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Un don, bien sûr, c'est un cadeau gratuit et inconditionnel. C'est la seule base sur laquelle Dieu offre le salut. Lorsque quelqu'un se repent et accepte Jésus-Christ comme son sauveur, Dieu, par grâce, lui accorde le pardon de ses péchés et lui donne une vie nouvelle par la nouvelle naissance. Pour autant, notre vie terrestre se poursuit, sans forcément que son environnement change. Nos problèmes restent, mais notre vision des choses, elle évolue. Et nés de nouveau, nous continuons d'être tentés quotidiennement. Et pour cela, nous pouvons continuer à utiliser toutes les ressources de la grâce de Dieu, toujours à notre disposition. De faire appel à l'aide fournie par Jésus-Christ, et par son esprit, comme il nous le rappelle en Romains 8, verset 26. L'esprit nous est en aide dans notre faiblesse. Il intercède pour les saints. Et en Hébreux 7, verset 25, Jésus peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de lui par lui. Il est toujours vivant afin d'intercéder pour eux. Jésus est toujours à nos côtés. C'est pourquoi le croyant doit avoir la paix. Il sait que ce qu'il devait à Dieu pour ses péchés a été payé une fois pour toutes. La rançon, à savoir le sang de Christ, a été réglée. La dette est acquittée. L'ardoise est effacée. Je suis sûr que la plupart des enfants ici, ils connaissent par cœur ce verset de Jean 3,16 que nous a lu tout à l'heure Jemina. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est souvent un des premiers versets qu'on apprend par cœur au culte des enfants. Votre acte de grâce a été signé il y a plus de 2000 ans. Pas avec de l'encre, mais avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour conclure, j'aimerais vous lire le verset qui suit ce que nous venons de lire, donc le verset 10 dans Éphésiens. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous voyons donc que Dieu ne s'arrête pas à cette grâce. Son amour va encore plus loin. Dieu a déjà un plan merveilleux pour nous. Une vie remplie de bonnes choses, et ce, dès notre plus jeune âge. Dieu souhaite que nous rentrions dans ce plan pour que nous y participions de façon active. Nous devons être en mouvement. Dieu nous et vous appelle à un service qui dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Il vous a placé sur terre afin que vous apportiez votre contribution. Je vous propose maintenant de regarder un petit clip vidéo où il y a du texte qui va être lu. Et à la fin de ce petit clip vidéo, on aura un moment de recueillement dans le calme.
Hey, tu sais quoi? Ce soir, t'as une bonne occasion de faire la teuf.
Tu sais pourquoi?
Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui t'aime.
Qui t'aime tellement fort qu'il a déjà tout fait pour toi.
Même sa vie. Cette personne, tu l'as peut-être deviné. C'est Jésus. Il veut être ton ami.
Mais qui est Jésus?
C'est expliqué dans un certain bouquin.
La Bible. Il y a de la musique.
Ce bouquin dit en résumé que Dieu t'aime. Dieu t'a créé pour vivre en relation intime avec lui. Mais nous avons tous refusé de dépendre de lui. Cette attitude rebelle, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes séparés de Dieu. Dieu est parfait et toi tu es pécheur. Il y a un grand abîme entre toi et lui. Mais Dieu a franchi l'abîme qui nous sépare de lui en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la terre, vivre notre vie d'humain. Par sa mort sur la croix, Jésus a subi le châtiment que nous méritions. Il a été condamné à notre place pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Maintenant, tu peux simplement recevoir Jésus dans ta vie. Il suffit de croire en tout ce qu'il a fait et de vouloir dire non au péché qui t'éloigne de lui. Veux-tu te donner à Jésus pour vivre en relation étroite avec lui? Il te suffit de lui adresser cette prière. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Dieu te connaît, ce qui lui importe, c'est l'attitude de ton cœur. Seigneur Jésus, je veux vivre en relation étroite avec toi. Merci d'être mort à la croix pour moi. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Je place ma vie entre tes mains. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen.
Maintenant, j'ai la joie de te dire que tu as